journal, Nicolas Creusel. Bonjour Nicolas.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. À la une, un séisme sur la planète foot. Léo Messi, le prodige argentin, quitte le Barça. Stupeur chez les supporters qui jusqu'au bout ont cru que l'aventure de 20 ans allait se poursuivre. On va en Espagne dans un instant. Dans ce journal également, le passe-partout, ou presque, le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la loi sanitaire. En Afghanistan, l'armée en première ligne face aux talibans. Depuis que les Américains ont amorcé leur retrait, mais pourra-t-elle tenir? Et puis, levez la tête et prenez-en plein les yeux entre les nuages. C'est la période des nuits des étoiles.
Dans 20 minutes, le premier invité de la matinale, Jean Leonetti, maire Les Républicains d'Antibes, réaction au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel autour du pass sanitaire, mais aussi état des lieux chez Les Républicains, primaire ou pas primaire. Il a pour mission de mettre d'accord les candidats.
France Inter.
Le FC Barcelone, le Barça, donc siffle la fin de la partie avec Léo Messi.
Fin du temps réglementaire et pas de temps additionnel pour le joueur 6 fois ballon d'or qui va donc quitter le Barça où il brillait depuis 20 ans. Il était en fin de contrat, mais un accord semblait pourtant avoir été trouvé jusqu'à ce communiqué hier soir du club catalan, Marie-Hélène Ballestero.
La nouvelle a pris tout le monde de court. Le premier, Lionel Messi, si l'on en croit le quotidien sportif catalan Sport, qui affirme que l'Argentin est abattu. Après des semaines de négociations, les deux parties semblent être parvenues à un accord, mais contre toute attente, le Barça confirmait le départ de Messi à travers un communiqué officiel publié quelques heures plus tard. Bien qu'ayant conclu un accord et avec l'intention de signer un nouveau contrat, il ne peut pas être formalisé en raison d'obstacles économiques et structurels. Compte tenu de cette situation, Lionel Messi ne restera pas lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club ne puissent finalement pas être exaucés, peut-on lire. Et c'est ainsi que s'achève l'aventure de l'astre argentin au Barça, une histoire d'amour qui aura duré plus de 20 ans avec des chiffres historiques. Après 778 matchs, 672 buts ou encore 35 titres remportés, la Pulga tire sa révérence. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
Et sans contrat, Messi est donc libre de signer où il veut. Certains l'annoncent déjà au PSG. Le PSG qui démarrera demain sa saison de Ligue 1 face à 3. Le coup d'envoi du championnat, c'est ce soir 21h, match entre Monaco et Nantes. On va reparler des clubs de Ligue 1 à la santé économique fragile dans un quart d'heure dans l'édito écho de Renaud Honoré.
Les patrons de bars et de restaurants ont 3 jours devant eux pour s'organiser.
Dès lundi, ils devront contrôler le pass sanitaire de leurs clients. Le dispositif a été validé hier par le Conseil constitutionnel. QR code obligatoire pour boire un verre, manger un morceau, même en terrasse. Et ça ne leur fait pas forcément plaisir. Reportage à Aix-en-Provence, Christophe Van Ven.
Ici, seulement un habitant sur trois a reçu ces deux injections contre 54% au niveau national. Assise devant la préfecture,
Élise refuse... On va aller à Aix-en-Provence. Dans un instant, avec Christophe Van Ven, pour voir que les restaurateurs ne sont donc pas très heureux de ce QR code obligatoire.
Smartphone à la main pour contrôler les QR codes, Henri est prêt.
Moi je serai là lundi à la première heure et je vais vérifier personnellement avec mon téléphone et je vais devenir contrôleur.
Une pointe d'ironie, comme chez son copain Philippe, restaurateur de Nice.
Lui il arrive avec un passe, il a marqué madame, qu'est-ce qui se passe ?
Tu n'as pas le droit de demander une carte d'identité. Et puis, il y a des gens qui le prennent très, très, très mal.
J'ai une question, par exemple. S'il y en a 3 qui arrivent, qui sont vaccinés, et le 4e n'est pas vacciné. Donc, on perd 4 clients.
Henri tient le Cézanne. Normal, on est à Aix. 70 places en terrasse.
Toute cette jeunesse-là qui n'est pas vaccinée, très peu. À mon avis, il va y avoir une perte de 40-50%, évidemment.
Le pass sanitaire ne passera pas chez Arnaud. Il va remiser les tables dès lundi. Plutôt ça que contrôler les vaccins.
Plutôt opter pour de la vente à emporter. Un peu comme on drive à McDo, de manière à ne pas proposer de pass sanitaire, quoi, simplement, en fait. On va dire que c'est une échappatoire, sinon on serait fermé. Hein.
Anti-pass, anti-vaccin, cohérent avec lui-même, même si son petit resto est debout depuis à peine 2 ans.
Ouais, on préfère couler, ouais, largement.
Quant à ses collègues futurs contrôleurs, il a une petite pensée pour eux.
Rester ouvert et prier pour que les clients continuent à venir, quoi.
Un reportage Christophe Van Ven, des patrons obligés de contrôler leurs salariés également, puisque les personnels devront être vaccinés au plus tard le 30 août, sauf à présenter ensuite un test négatif toutes les 48 heures. Certes, un salarié ne pourra pas être licencié s'il n'est pas vacciné ou s'il n'a pas de pass sanitaire, pas plus un CDD qu'un CDI, dit le Conseil constitutionnel, mais son contrat de travail et son salaire pourront être suspendus. La pression s'accentue donc sur ceux qui ne veulent pas entendre parler du vaccin. Faustine Calmel s'est rendue à Melun où la vaccination patine.
Ici, seulement un habitant sur trois a reçu ces deux injections contre 54% au niveau national. Assise devant la préfecture, Élise refuse toujours la piqûre.
Je suis contre parce que je ne fais pas du tout confiance. Tout ça, le gouvernement, le laboratoire, les médecins ne sont pas d'accord entre eux. Ça change tout le temps, tous les trois mois, ils font du rétropédalage. Donc, on n'a pas confiance.
Mais c'est son statut de demandeuse d'emploi qui risque de la faire plier.
Parce que je ne peux pas rester dans la situation actuelle sans travail. En plus, j'ai 52 ans, donc c'est pas facile à cet âge-là de retrouver quelque chose. Il va falloir, disons, entre guillemets, que je m'incline contre ma volonté. Mais bon, pour trouver du travail, voilà.
Élise repousse encore un peu le moment de prendre rendez-vous, trop inquiète. À ses côtés, Denis, gardien d'un grand domaine, s'est organisé avec son employeur.
Mon propriétaire, il m'a posé la question, j'ai dit c'est niet. Il me dit, ouais, vous êtes contre tout. J'ai dit non, je suis pas contre tout, mais j'ai dit, moi, je suis pas malade, quoi. Puis là-bas où je suis tout seul, je suis contaminé qui ? Personne. Donc voilà.
Même refus chez Céline.
Et la raison principale, je dirais, c'est l'atteinte à ma liberté, en fait.
Et même si elle exerce son métier au contact du public, elle défendra, dit-elle, cette liberté jusqu'au bout.
Après, ça a des conséquences derrière, hein. Forcément, parce que je perds mon emploi. Je suis propriétaire, donc forcément, j'ai un prêt immobilier chaque mois à rembourser. Mais je ne le fais pas. Et mon conjoint est dans la même optique aussi.
Leur opposition au vaccin a déjà des conséquences. Les relations avec la famille sont devenues très, très compliquées, dit-elle.
Faustine Calmel.
En Afghanistan, les talibans gagnent du terrain jour après jour.
Les islamistes ont mené une offensive fulgurante ces dernières semaines. Depuis que les troupes américaines ont amorcé leur retrait définitif, ils contrôlent plusieurs grandes villes, Kandahar dans le sud, Herat dans l'ouest. L'armée afghane en première ligne face aux fondamentalistes. Mais Valérie Krova, pourra-t-elle résister longtemps ?
De l'armée afghane, on ne connaît pas précisément les effectifs. On sait en revanche que les Américains ont investi 8 milliards de dollars pour reconstituer sa force aérienne, ce qui devrait lui donner un avantage considérable face aux talibans, essentiellement armés de Kalachnikov et de lance-roquettes. Problème, les avions et hélicoptères de combat demandent une maintenance complexe que les équipages afghans ne sont pas en mesure de fournir. Il faut aussi prendre en compte la difficulté d'opérer des frappes ciblées. Kaneshka Sorkabi est chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe.
Les talibans, quand ils attaquent dans des districts éloignés, ils vont dans des maisons. Les armées afghanes ne veulent pas tirer sur tout le monde, dans tous les villages, bombarder, pour empêcher la progression de petits groupes. Et donc c'est ça qui rend aussi les choses extrêmement compliquées.
L'autre principale difficulté de l'armée afghane est de ravitailler les avant-postes tenus par les soldats afghans.
La logistique est extrêmement difficile. Ce qui fonctionne beaucoup mieux, en revanche, ce sont les forces spéciales afghanes, parce que ce sont des forces beaucoup plus efficaces, puisqu'elles sont projetés en petits groupes et sont capables de mener des opérations avec beaucoup d'efficacité.
Jusqu'à présent, les forces afghanes ont réussi à défendre les principaux centres urbains. Mais la chute d'une grande ville aux mains des talibans aurait un effet dévastateur sur le moral des soldats, déjà minés par des pertes importantes au cours des 20 dernières années.
Valérie Krova, des renforts français en Grèce pour lutter contre les incendies, notamment sur l'île d'Eubé, toujours ravagée par les flammes. Autre foyer important à Olympie et puis au nord d'Athènes, sur le mont Parnès. Plusieurs villages ont dû être évacués hier. En Turquie, la centrale thermique de Milas, remplie de tonnes de charbon, suscite toujours l'inquiétude. En plein été, la galère reste la même pour les plus démunis. Or, les associations qui leur viennent en aide dans l'année sont parfois fermées pour cause de vacances de leurs bénévoles et salariés. Alors, depuis 27 ans, l'association Août Secours Alimentaire à Paris prend le relais avec des distributions alimentaires plusieurs fois par semaine. Des distributions prises d'assaut, exemple dans le 15e arrondissement. Reportage Louise Aurat.
15h, le portail s'ouvre devant une queue déjà longue d'une dizaine de mètres. Alain sort tout juste de la cour avec son caddie rempli. Lui et sa famille bénéficient d'une aide alimentaire depuis 6 mois.
Dans la vie, je suis brancardier, donc j'ai un salaire, mais pas suffisamment, puisque je dois supporter un loyer. Je dois aussi payer les factures, l'électricité, tout ça, donc ce qui fait que ça ne s'aligne pas, enfin, on a du mal.
C'est tous les deux jours.
Une équipe composée d'une centaine de membres accueille le public 3 fois par semaine, des travailleurs en situation de handicap ou encore des étudiants, comme Ulysse, 19 ans.
Je ne faisais pas grand-chose de mes vacances, alors je cherchais quelque chose à faire. J'ai appris l'existence de ces nombreux centres où on peut aider. Je me suis dit, c'est l'occasion de faire quelque chose de mes vacances et une bonne action en même temps.
C'est extrêmement important.
Gérard Laure, l'un des responsables, était plutôt confiant sur les stocks de la banque alimentaire au début de la distribution, mais face à la demande, il doute de plus en plus.
C'est des gens qui viennent de la part du Resto du Cœur d'un côté et d'autres de l'hôtel social de la place Ballard, et c'est des familles de 6 ou 7 personnes. Donc là, je pense qu'on va exploser, réellement.
700 personnes ont été reçues au premier jour de la campagne. C'est plus que l'année dernière et en principe, selon le responsable, la demande croît au fil des jours.
Reportage Louise Aurin. Au JO de Tokyo, l'abandon cette nuit sur le 50 km marche de Johan Diniz. Le Français de 43 ans tentait une dernière fois de décrocher une médaille olympique. Il a dû renoncer au bout de 28 km. À cause de douleurs au ventre, c'est le Polonais Dawid Tomala qui l'a emporté parmi les temps forts du jour. On suivra tout à l'heure les demi-finales dames des tournois hand et basket avec les Françaises en lice. Nos étoiles donc à Tokyo et d'autres étoiles dans le ciel cette fois. Vous pourrez les admirer si les nuages veulent bien s'écarter un petit peu. C'est la 30e édition cette année des Nuits des Étoiles. Officiellement, il y en a 3, même si tout le mois d'août est propice au phénomène. Plus de 300 événements organisés un peu partout en France. Des Nuits des Étoiles adaptées au contexte sanitaire, bien sûr. Jauge, passe, geste barrière. Et la meilleure fenêtre de tir, d'après les spécialistes, ce sera jeudi prochain, le 12 août. Cette année, on peut dire merci à la Lune, nous explique Olivier Lasvargnas, qui préside l'Association française d'astronomie.
On est bien positionné pour les étoiles filantes avec la Lune. Il y a des années où on est gêné parce qu'on a la pleine Lune au moment du maximum. Ça commencera à être bien visible vendredi, samedi, dimanche et encore plus jusqu'à la nuit de mercredi ou jeudi. Et puis, c'est une bonne année pour les planètes géantes. Saturne est au plus près de la Terre en ce moment. Et puis, on a Jupiter qui se lève juste un peu après, à l'est, juste au moment où le Soleil se couche. Donc très très visible, vraiment toujours très très marquante. Saturne avec l'anneau, Jupiter avec les bandes, les balais des satellites qu'on voit très très bien, les ombres. Et puis en plus, il y a un petit clin d'œil, c'est que Vénus est visible juste après le coucher du Soleil. Elle disparaît très vite, mais on peut commencer sa nuit avec Vénus et terminer avec Jupiter et Saturne. C'est visible à l'œil nu. Ce qui nécessite un télescope, c'est de voir les détails sur les planètes, par exemple. Pour voir l'anneau de Saturne, il faut des très grosses jumelles ou une petite lunette. Pareil pour les bandes de Jupiter. Mais ce qui fait vraiment le spectacle des étoiles filantes, il n'y a pas besoin d'appareil. L'appareil, c'est la chaise longue, la petite couverture. Donc c'est vraiment intéressant.
Olivier Lasvargnas, le président de l'Association française d'astronomie, au micro France Inter de Sophie Becherel. Et l'étoile de ce 6-9, c'est Laetitia Gaillet.
Oh, il est gentil. Merci beaucoup, Nicolas Crozel.